Alors, après avoir décrit en quoi consiste le sacrement de l'ordre dans l'Ancien Testament, c'était l'objet des trois précédentes conférences, nous allons maintenant parler du sacerdoce du Nouveau Testament. Et alors, avant de parler du prêtre proprement dit, il m'a semblé intéressant de vous parler un petit peu du séminaire et des différentes étapes que le séminariste franchit avant d'être ordonné prêtre. En général, quand dans le ministère, les fidèles voient les prêtres agir, et puis ils ne connaissent pas toujours la vie cachée du séminaire, et en particulier, ils ne connaissent pas un petit peu les différentes étapes, les différents ordres, et la spécificité de chaque ordre que le prêtre, que le futur prêtre embrasse avant d'accéder au sacerdoce. Alors c'est un petit peu ce que nous allons essayer de faire ce soir. Avant de répondre, avant de voir donc chaque ordre les uns après les autres, on va d'abord se poser la question avec saint Thomas, est-ce qu'il convient qu'il existe un ordre dans l'Église? Ensuite, pourquoi y a-t-il différents ordres? Ensuite, donc, quelle est la spécificité de chacun des ordres? Et enfin, quelle est la sainteté requise chez ceux qui doivent recevoir les ordres? Alors, comme d'habitude, je m'appuierai pour répondre à ces questions sur saint Thomas d'Aquin, mais également sur le traité des saints ordres de M. Ollier. Convient-il qu'il y ait un ordre dans l'Église? Oui, répond saint Thomas, selon ce qu'il est écrit dans l'Épître aux Romains, ce qui vient de Dieu est ordonné. Ce qui vient de Dieu est ordonné. Le bon Dieu agit dans l'ordre. Romains chapitre 13, verset 1. Or, l'Église est d'institution divine, l'Église vient de Dieu, donc il doit y avoir un ordre dans l'Église. D'ailleurs, on le voit bien, nous dit saint Thomas, dans la nature aussi il y a un ordre. Certaines créatures sont supérieures aux autres. Les animaux sont supérieurs aux végétaux, les végétaux sont supérieurs aux minéraux. Après, à l'intérieur même des espèces, il y a encore un ordre. Les fleurs sont plus ou moins belles, les étoiles sont plus ou moins lumineuses. De même au ciel, les saints sont plus ou moins proches de Dieu. Les anges eux-mêmes sont hiérarchisés. Donc l'Église, qui est un petit peu dans un état intermédiaire entre la nature et la gloire, doit aussi connaître cette hiérarchie. Par ailleurs, dans le plan de Dieu, les inférieurs doivent être conduits à la perfection par des êtres intermédiaires, et ceux-ci à leur tour par des êtres supérieurs. C'est ce qu'enseigne saint Denis l'Aréopagite. Par exemple, au ciel, les anges n'ont pas des idées acquises comme nous, ils ont des idées infuses. Eh bien, ces idées infuses, au lieu d'être infusées directement par Dieu, plusieurs d'entre elles sont infusées par les anges des hiérarchies supérieures. Donc, les anges inférieurs, au lieu d'être illuminés directement par Dieu, sont illuminés par les anges de la hiérarchie supérieure. Par conséquent, dans le même esprit, le bon Dieu a voulu que les simples fidèles, au lieu d'être éclairés directement par lui, le soient aussi par des intermédiaires, par ses ministres, qui composent justement la hiérarchie ecclésiastique. Ainsi, dans le corps humain, autre analogie, certains organes ont une influence sur d'autres organes. De même, dans l'Église, l'Église qui forme le corps mystique de notre Seigneur, eh bien, certains membres ont encore une influence sur d'autres en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu. Par conséquent, le bon Dieu a voulu s'associer des collaborateurs dans la personne de ses ministres pour communiquer aux âmes des fidèles la parole de Dieu et les sacrements. Alors, maintenant, la question que l'on se pose, il y a une hiérarchie dans l'Église, c'est par la tête que les membres reçoivent l'influence de Dieu, et non pas de Dieu directement, mais en quoi va consister cet ordre? Est-ce que l'ordre va être réalisé en fonction de la sainteté de certains membres? On serait peut-être tenté de dire oui, eh bien non. Pas nécessairement, pas essentiellement. Bien sûr que ceux qui vont être appelés à former la hiérarchie de l'Église doivent et devraient au moins être plus saints que les autres, mais malgré tout, l'ordre ne va pas provenir, comme on va le voir, d'une distinction dans la sainteté, mais d'une distinction de pouvoir. Son chef dans l'Église, non pas nécessairement les plus saints, mais ceux qui ont reçu de la hiérarchie certains pouvoirs. Donc, l'ordre, on va le voir, est constitué essentiellement par le caractère sacerdotal. Le caractère sacerdotal, c'est un sceau qui est imprimé sur l'âme de ceux qui ont reçu donc le sacrement de l'ordre. Et c'est ce sceau qui va permettre à celui qui l'a reçu d'exercer certains pouvoirs. Alors bien sûr qu'en vertu de ce sceau, celui qui l'a reçu devra et devrait être plus saint, mais quand bien même il serait moins saint, il ne perd pas pour autant ce pouvoir de sanctifier. Heureusement d'ailleurs pour les fidèles. Parce que si les effets sur votre âme étaient uniquement liés à la sainteté de celui qui vous donnait les sacrements, en ce moment-là, ce serait bien sûr très difficile de se sanctifier. D'autant plus qu'on ne connaît pas toujours, il y a une sainteté peut-être apparente parfois, mais qui n'est pas toujours réelle. Et parfois, ça peut être l'inverse. Il est difficile de connaître l'état d'âme de chaque ministre de l'Église. Donc, les différents ordres de la hiérarchie de l'Église vont se manifester par différents pouvoirs que vont recevoir les membres de cette hiérarchie. Ainsi, le portier va avoir le pouvoir d'exclure les gens indignes de l'Église. C'est la fonction propre du portier. C'est le premier ordre que l'on reçoit. Je ne dis pas ça pour vous. L'exorciste va avoir le pouvoir de chasser le démon. Le diacre va avoir le pouvoir de prêcher, le pouvoir de donner la communion, le pouvoir de baptiser. Le prêtre va recevoir le pouvoir de célébrer la messe et de confesser. L'évêque va recevoir le pouvoir d'ordonner des prêtres et de confirmer. Donc, en fonction de chaque degré de la hiérarchie, on reçoit des pouvoirs qui sont proportionnés à cette fonction. Mais bien sûr, plus on va monter dans cette hiérarchie, plus l'Église devra être exigeante pour n'appeler à l'état supérieur que ceux qu'elle jugera dignes d'une fonction plus élevée dans la hiérarchie. À la question posée par l'évêque le jour de l'ordination sacerdotale, « Savez-vous s'il est digne ?» Avant d'ordonner quelqu'un, l'évêque n'étant pas censé connaître nécessairement toutes les personnes qui vont être ordonnées, il demande à celui qui présente le futur ordinant, « Savez-vous s'il est digne ?» Et cette personne répond, « Autant que la faiblesse permet de le savoir, je sais et je certifie qu'il est digne de recevoir cette charge. » Donc c'est une très lourde responsabilité, bien sûr, pour celui qui présente le candidat au sacerdoce à l'évêque de répondre que la personne est digne de recevoir cette lourde charge. Par conséquent, face à cette lourde responsabilité, saint Paul disait à Timothée, saint Paul qui avait sacré Timothée comme évêque, Timothée qu'on fêtera demain, n'impose pas trop vite les mains à personne. Première à Timothée, chapitre 5, verset 22. Donc saint Paul recommandait à Timothée, qui était évêque, de la prudence avant d'ordonner quelqu'un prêtre. N'impose pas trop vite les mains à personne. Et comme on le verra tout à l'heure, ce pouvoir appartient à l'évêque et à lui seul. Ce pouvoir n'est pas un pouvoir qui vient de la base, qui vient du peuple, mais qui vient de l'autorité compétente. Doit-on distinguer plusieurs ordres ? L'Église est le corps mystique du Christ, semblable au corps naturel d'un être humain. Or, dans un corps, les membres ont des fonctions diverses. Donc, de même, dans l'Église, doivent exister différents ordres. Et là, il y a encore des analogies qui sont prises tout d'abord dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prêtres, mais aux prêtres étaient joints des lévites, qui, sans être prêtres, avaient déjà une certaine fonction dans la hiérarchie sacerdotale. Donc, comme l'Ancien Testament est une image du Nouveau Testament, cette hiérarchie de l'Ancien Testament est une figure de la hiérarchie qui devait également exister dans le Nouveau Testament. Et en effet, la pluralité des ordres s'impose tout d'abord pour manifester la sagesse de Dieu qui éclate dans l'harmonie de l'univers comme dans le ciel. Or, qui dit harmonie dit ordre, dit hiérarchie. Ensuite, deuxièmement, pour soulager la faiblesse humaine, on voit dans l'Ancien Testament que Moïse, n'arrivant plus à faire face à tous les devoirs de sa charge, il a choisi 70 vieillards pour le seconder. Et donc, de même, dans le Nouveau Testament, on voit que les apôtres, quand l'Église a commencé à s'étendre, se sont adjoints 72 disciples pour également les seconder. Donc, deuxième but de cette hiérarchie ecclésiastique, permettre aux évêques et aux prêtres de souffler en se faisant aider par des collaborateurs qui n'ont pas reçu cette charge, tout en faisant partie de la hiérarchie. Et puis, troisième but encore, pour ouvrir à un plus grand nombre d'hommes la voie de la perfection, puisque tous les clercs, de par leur fonction, sont appelés à une sainteté particulière. Eh bien, dans la mesure où il y a plusieurs membres dans cette hiérarchie, plus il y a de membres dans cette hiérarchie, plus il y a d'âmes à pouvoir ainsi se rapprocher du bon Dieu. Alors maintenant, autre question intéressante, quel rapport existe-t-il entre les différents ordres? Il y a sept ordres particuliers jusqu'au sacerdoce. Quel est le rapport qui existe entre ces différents ordres? Eh bien, nous le voyons, le sacrement de l'ordre a pour fin le sacrement de l'Eucharistie, le prêtre étant donné pour le sacrifice. Notre sainte religion est centrée sur le sacrifice. Donc le prêtre est ordonné pour le sacrifice de la messe. L'acte religieux par excellence, c'est le sacrifice. Et par conséquent, on va trouver la distinction des ordres dans leur rapport à la sainte Eucharistie. Autrement dit, l'ordre a pour objet ou bien la consécration de l'Eucharistie, c'est l'objet du sacrement de l'ordre proprement dit, de l'ordination sacerdotale, ou encore quelques fonctions relatives à ce sacrement de l'Eucharistie. C'est vrai pour les ordres qui précèdent. Alors les trois premiers ordres vont avoir pour objet de permettre aux âmes d'être dignes d'approcher de la Sainte Eucharistie. Les trois premiers ordres sont les ordres de portier, lecteur et exorciste. Pour approcher la Sainte Eucharistie, il faut être pur. Or, selon Saint Denis, il y a trois sortes de personnes impures. Premièrement, ceux qui refusent de croire, qui sont totalement infidèles. Et ceux-ci doivent être absolument écartés de l'assistance au mystère divin. C'est le rôle des portiers, de mettre à la porte ceux qui n'ont pas la foi. Ensuite, je devais le faire l'autre jour, c'était pas très facile. J'essaie de le faire avec délicatesse, pour ceux qui étaient à la messe samedi soir. Ensuite, deuxièmement, ceux qui veulent croire mais ne sont point instruits, ce sont les catéchumènes. À leur enseignement est préposé l'ordre des lecteurs, et c'est pourquoi ceux-ci sont chargés de lire les rudiments de la foi, à savoir l'Ancien Testament. Donc l'ordre des lecteurs correspond à la formation de ceux qui ne sont pas encore baptisés, les catéchumènes. Et enfin, ceux qui sont instruits de la foi, mais qui sont paralysés par le pouvoir du démon, d'où l'ordre des exorcistes, qui consiste à chasser le démon des personnes qui en sont prisonnières. Ensuite, les trois autres ordres qui vont suivre avant la prêtrise ont pour objet la coopération des prêtres dans la dispensation du sacrement. l'acolyte. Bien sûr qu'aux messes, en général, sont de simples fidèles qui souvent exercent cette fonction d'acolyte, mais normalement, cette fonction est réservée à ceux qui ont reçu cet ordre. Eux le font par fonction, donc ils ont une grâce d'État pour le faire. Et c'est le quatrième ordre dans la hiérarchie de l'Église. Le rôle de l'acolyte est de remplir les burettes de vin et d'eau. Et c'est pourquoi, à son ordination, on lui présente une burette vide. Son rôle est donc de présenter la matière du sacrement. Ensuite, le sous-diacre va porter les vases sacrés sur l'autel ainsi que les offrandes. Vous avez assisté souvent à des messes avec diacre et sous-diacre, donc vous avez pu remarquer peut-être que à l'offertoire, c'est le sous-diacre qui porte ce voile qu'on appelle huméral parce qu'on le porte sur les épaules et qui, à partir de ce voile huméral, va chercher les vases sacrés pour les porter à l'autel. C'est également lui qui verse la goutte d'eau à l'offertoire. À l'ordination, il reçoit le calice, mais vide, de la main de l'évêque. Le diacre, ensuite, assiste à la messe, assiste le prêtre dans la dispensation du sacrement. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de donner la Sainte Communion, de distribuer la Sainte Communion avec le prêtre. Mais il n'a pas encore le pouvoir de consacrer. Et enfin, le prêtre reçoit le pouvoir de consacrer le corps et le sang de notre Seigneur. Et c'est pourquoi, le jour de son ordination, il reçoit le calice avec le vin et la patène avec l'hostie. Le jour d'ordination, donc, il y a un calice qui est rempli de vin et la patène qui est ornée de l'hostie. Ainsi, vous le voyez, à travers les 7 degrés de la hiérarchie ecclésiastique, on découvre à chaque fois un lien avec la Sainte Eucharistie. Et par ailleurs, on peut noter que plus le pouvoir est important sur le corps physique de notre Seigneur, plus le pouvoir est grand également sur le corps mystique, c'est-à-dire sur les fidèles. À proportion que le prêtre monte les marches de l'autel, à proportion, il aura un pouvoir plus grand sur les fidèles. Le lecteur prépare les fidèles par des lectures de l'Ancien Testament. Le sous-diacre prépare les fidèles par les lectures des épîtres. Les épîtres qui sont encore des commentaires des évangiles, qui ne sont pas encore la parole de Dieu. Le diacre, lui, prépare les fidèles par la lecture de l'évangile, par la parole de Dieu elle-même, et par le sermon. Et le prêtre, lui, prépare les fidèles par l'évangile et le sermon, bien sûr, mais aussi par l'autorité qu'il exerce sur les fidèles et également par la confession où il connaît les âmes, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc vous voyez qu'il y a cette gradation entre ce pouvoir sur le corps mystique et le pouvoir sur le corps physique de notre Seigneur. Autre question qu'on peut se poser. Dans la hiérarchie des ordres, on ne parle d'ordre sacré que pour le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise. Pourquoi ? Eh bien, on utilise le terme d'ordre sacré pour signifier les ordres dont les actes ont pour objet une matière consacrée. Or, c'est justement le cas de ces trois ordres. Le sous-diaconat a pour objet les vases consacrés. Le sous-diacre a le pouvoir de purifier les vases consacrés. C'est une de ses fonctions propres de purifier les vases consacrés et de les porter à l'autel. Le diacre, lui, peut dispenser, comme nous l'avons dit, le corps et le sang de notre Seigneur en distribuant la Sainte Communion. Et le prêtre, lui, a le pouvoir de consacrer le corps et le sang de notre Seigneur. Et c'est justement en raison de cette ordination aux choses sacrées que le sous-diacre devra, avant de recevoir cet ordre, faire le vœu implicite de chasteté. Étant donné que toute sa personne est ordonnée à une mission qui est sacrée, il doit lui-même être consacré à Dieu d'une façon particulière. D'où l'engagement de la chasteté perpétuelle au moment du sous-diaconat. Alors maintenant, après avoir vu donc le lien qui existe entre les différents ordres, on va essayer de les voir un petit peu les uns après les autres. Mais avant de voir le premier ordre, disons un mot de la soutane, et puis ensuite de la tonsure. À l'origine, il n'y avait pas de distinction extérieure entre les clercs et les laïcs. Et cela était lié en partie aux périodes de persécution. Dans la mesure où dans les premiers siècles il y avait des persécutions, il n'y avait pas intérêt de se montrer extérieurement. Mais au VIe siècle, on verra la première distinction qui va apparaître, puisque les clercs devront porter un vêtement long et de couleur sombre. Mais ensuite, la soutane telle que les prêtres la portent aujourd'hui date du XVIe siècle. C'est Saint Charles Borromée qui va l'imposer d'une façon générale. Quel est le but de la soutane? Qu'est-ce qu'exprime le port de la soutane? Eh bien, tout d'abord, que le clerc est un homme qui est à part des autres. Notre Seigneur nous a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Saint Jean, chapitre 15, verset 19. Donc, par ce choix de Dieu, le prêtre est appelé à exercer un ministère tout à fait particulier, à savoir qu'il doit être dans le monde, mais sans être du monde. Et c'est pour cela que, normalement, du prêtre, on ne voit que la tête et les mains. La tête, qui est l'image du Christ, le Christ étant la tête du corps mystique et l'Église, et les mains qui manifestent que le prêtre agit par le Christ. Ensuite, il y a un intérêt pratique. La soutane permet que l'on reconnaisse facilement le prêtre. On voit bien, par exemple, à l'hôpital, quand on va visiter des malades, et bien souvent, on est accosté par des personnes qui nous demandent de visiter d'autres malades. Si nous étions sans signe distinctif, et bien des malades ne recevraient pas notre visite. Donc, c'est un signe de reconnaissance. Notre Seigneur a dit « Vous êtes la lumière du monde ». La lumière ne doit pas être mise sous le boisseau, mais sur le candélabre. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 14. Ensuite, la soutane symbolise encore la mort au monde et la mort au péché. La couleur noire est une couleur qui symbolise la mort. Et elle rappelle au prêtre, justement, qu'il a le devoir de mourir au monde et de mourir au péché. Et puis, enfin, autre élément très important, à mon avis, surtout peut-être encore plus dans la société où nous vivons, puisqu'elle est tellement dépravée, la soutane est encore pour le prêtre une protection. Quand on est rentré au séminaire, quand on a reçu la soutane, on nous a dit « Gardez votre soutane et votre soutane vous gardera. » Là où la soutane ne passe pas, le prêtre ne passe pas. C'est ce qu'on nous a appris. Et justement, je vous raconte une petite anecdote qui s'est produite, que m'a raconté un prêtre, qui n'est pas de la fraternité, c'est un prêtre ami de la fraternité. Petite aventure qui lui est arrivée. Il y avait une pièce de théâtre qui se jouait dans une ville qui était extérieure à la ville où il exerçait son ministère. Et il était allé voir sa sœur, en fait. Sa sœur qui avait à peu près le même âge que lui. Et donc, sa sœur l'a invité au théâtre. Ce qui était tout à fait correct, bien sûr. Mais seulement, comme il était avec sa sœur, pour éviter les confusions donc dans la rue, pour les gens qui ne la connaissaient pas, qui ne le connaissaient pas, il a voulu aller en civil par discrétion. Et il arrive donc dans la salle de théâtre, et puis là, il s'aperçoit qu'il y avait juste, dans le banc qui était juste derrière le sien, des fidèles de sa propre chapelle. Alors il s'est assis, bien sûr, mais comme il a dit, il n'a pu rien voir du tout de la pièce. Il n'osait pas s'excuser, il ne savait pas ce qu'il devait dire, pas dire. Et je pense que ça lui a servi de leçon. Alors c'est lui-même qui me raconte cette anecdote. Donc là où la soutane ne passe pas, le prêtre ne passe pas. Ensuite, la soutane rappelle également, dans le même sens, au prêtre sa vocation et rappelle qu'il est une personne publique, qui par conséquent doit toujours être à la hauteur de sa mission. Alors, après avoir parlé de la soutane, maintenant je parle de la tonsure. Il faut distinguer les deux. En fait, de mon temps, et donc du temps aussi de mes prédécesseurs, nous recevions la tonsure en même temps que la soutane. Et donc, pour les fidèles, beaucoup d'entre eux, ils considèrent que la soutane et la tonsure, c'est un petit peu la même chose. En fait, la soutane est donc l'habit des personnes qui veulent se consacrer à Dieu, mais ne signifie pas que cette consécration ait été faite encore pour l'instant. Tandis que la tonsure est le rite par lequel on passe de l'état laïque à l'état clérical. Et maintenant, depuis quelques années, au séminaire de Flavigny, on reçoit la soutane en première année, tandis qu'on ne reçoit la tonsure qu'en deuxième année. Donc, il peut y avoir séparation des deux. Donc, il reste encore laïque jusqu'à la deuxième année. Et cela, tout simplement, pour une question d'engagement, à savoir qu'on s'engage dans la fraternité qu'en deuxième année. Et normalement, pour pouvoir être intégré, en fait, dans cette montée vers le sacerdoce, il faut appartenir à un ordre, et donc faire partie d'une congrégation. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont en première année, puisqu'ils ne font pas encore partie de la fraternité. Alors, c'est une question pratique. Alors, cette année, par exemple, la prise de soutane aura lieu le 1er février pour ceux qui sont en première année, et le lendemain, le 2 février, pour ceux qui sont en deuxième année, ils recevront la tonsure. Donc, la tonsure, c'est le rite par lequel on passe de l'état laïque à l'état ecclésiastique. En quoi consiste ce rite? L'élément matériel, l'évêque coupe 5 mèches de cheveux en forme de croix. Et ces 5 mèches symbolisent les 5 plaies de notre Seigneur. Chez les Romains, la coupe de cheveux manifestait la soumission d'un homme à un autre. Et dans l'Église, la coupe de cheveux manifeste la soumission au service de l'autel. On peut dire également que cette coupe de cheveux exprime le don de soi, qui est la vertu propre du clerc. Si on s'engage, c'est dans le but de se donner. Et ce don de soi est exprimé par cette tonsure. Dans la tonsure, aucun pouvoir n'est communiqué pour des fonctions spirituelles déterminées, mais le candidat s'engage seulement au service de Dieu. Il s'oblige par là même à une vie plus parfaite, en harmonie avec cet engagement, et l'Église demande pour lui les grâces nécessaires. Le vêtement du clerc, c'est le surplis. Le surplis, donc le linge blanc que vous voyez, que porte le séminariste, entre autres, quand il assiste à la messe, que le prêtre utilise aussi, normalement, pour confesser, ou pour bénir les objets. Le surplis, c'est le vêtement du clerc. Il date du bas Moyen-Âge. On remettait un vêtement blanc au futur chevalier par son suzerain. Au XIVe siècle, l'Église va emprunter ce rite, le clerc et le chevalier du Christ. Par la cléricature, il s'engage à se donner au Christ et à le suivre. L'habit blanc indique la candeur et l'innocence du tonsuré. Il symbolise également la vie de l'homme nouveau qui a crucifié le vieil homme et ses convoitises. Donc la soutane, c'est la partie un petit peu négative, si vous voulez, c'est la mort au vieil homme. Et le surplis, c'est la partie positive, c'est l'homme nouveau que revêt celui qui s'engage au service de Dieu. L'élément formel de la tonsure, ce sont les paroles qui expriment la volonté de donner au clerc l'Esprit Saint pour que se produise en lui un accroissement de vertu et qu'il évite tout aveuglement de l'esprit et de la chair. Alors ce rite n'est pas un sacrement, mais c'est un sacramental. Qu'est-ce que c'est qu'un sacramental? C'est une action qui se rapproche des sacrements, mais sans en être, et que l'Église utilise pour obtenir des effets spirituels. Autre sacramental, par exemple, l'onction des rois, ou encore l'usage de l'eau bénite, ou encore les bénédictions que le prêtre peut donner. Alors dans les sacramentaux, il y a deux effets Il y a des effets qui sont infaillibles, qui découlent du rite. Quand le rite est donné selon les normes, l'effet est produit. Et puis ensuite, il y a des effets qui dépendent des dispositions de celui qui reçoit le rite. Alors ici, l'effet infaillible produit par le rite de la tonsure, c'est la députation au culte divin. Celui qui reçoit ce rite est ordonné toute sa vie au culte divin. Et puis ensuite, également, autre effet infaillible, l'adoption des privilèges et des charges des clercs. Privilège, par exemple, autrefois, c'était l'exemption du service militaire. D'où les difficultés qu'ont notre séminariste à accepter sa charge du service militaire. Et puis ensuite, bon, les charges des clercs, eh bien, c'est justement ce devoir qu'a le clerc de vivre d'une vie plus sainte que les laïcs. Ensuite, les effets qui dépendent à la fois des prières de l'Église et des dispositions de celui qui reçoit ce rite, c'est justement le don de soi, la volonté de servir Dieu dans l'ordre que l'on a reçu. Alors, comment se manifeste ce don de soi ? Eh bien, toujours pareil, dans la docilité à la volonté de Dieu qui est exprimée par les supérieurs dans la fonction que départie par nos supérieurs. Chaque ordre, en quelque sorte, est un service. Et ce service est lié, bien sûr, au bien commun. Et le bien commun doit être assuré par la hiérarchie. C'est la hiérarchie qui a ce devoir et ce pouvoir de veiller à l'exécution de ce bien commun. La dignité du clerc. La dignité du clerc vient de ce qu'il est choisi pour glorifier Dieu publiquement. Il rend à Dieu les hommages de son Église et ensuite il distribue les dons de Dieu aux fidèles de l'Église. Donc, médiation ascendante, médiation descendante. Médiation ascendante, il rend à Dieu les hommages de son Église, il représente les autres membres de l'Église auprès de Dieu et ensuite, médiation descendante, il distribue ensuite le don de Dieu aux âmes. Alors, les canons 109, 968 et 973 rappellent ce que je vous avais dit au début. L'élévation à la cléricature et aux différents ordres se fait non par le choix du peuple ou de l'autorité civile, mais par l'appel régulier des supérieurs ecclésiastiques, seuls juges en dernier ressort pour leur sujet des vertus, qualités ou aptitudes que suppose nécessairement la vocation divine au sacerdoce. Les supérieurs ecclésiastiques sont les seuls juges des vertus, qualités ou aptitudes que suppose nécessairement la vocation divine au sacerdoce. Ce ne sont pas les fidèles, c'est l'autorité. Vous pouvez vérifier, lire ces canons 109, 968 et 973. Alors voyons maintenant dans le détail les sept ordres. L'épiscopat, la prêtrise et le diaconat sont d'institutions divines, comme en témoignent les évangiles, les épîtres et les actes des apôtres. Quant au sous-diaconat et aux quatre ordres mineurs, c'est l'Église qui les a institués selon ses besoins. Mais dès le IIIe siècle, on les trouve établis dans l'Église romaine. C'est pour cela que je pense que c'est grave, dans l'Église actuelle, d'avoir supprimé tous ces ordres mineurs et ce sous-diaconat. Il ne reste plus dans l'Église officielle que le diaconat, la prêtrise et l'épiscopat. Alors que dès le milieu du IIIe siècle, tous les autres ordres existaient. La réception des quatre ordres mineurs et des trois ordres sacrés ne confère qu'un seul sacrement, dont ils sont comme les divers degrés ou échelons. Le portier. Les ordres inférieurs, comme on va le voir, ont pour objet des fonctions extérieures qui figurent des fonctions intérieures du sacerdoce. Ainsi, par exemple, le portier a une fonction extérieure, à savoir ouvrir et fermer les portes de l'Église. Eh bien, cette fonction extérieure est la figure de la fonction intérieure qu'a le prêtre d'ouvrir et de fermer la porte du ciel en donnant les sacrements, en administrant les sacrements. Et cela se voit en particulier par le sacrement de pénitence, mais aussi par le sacrement de l'extrême-onction qui dispose l'âme à rentrer au paradis. La matière du sacrement de l'ordre. On donne à toucher au portier des clés qui symbolisent sa fonction. Donc le rôle du portier sera d'ouvrir et de fermer les portes. C'est lui qui a la garde du Saint-Sacrement et c'est à lui aussi de sonner les cloches. Aujourd'hui, il y a des cloches électroniques. L'existence de cet ordre montre le soin que nous devons avoir pour la maison de Dieu. Le lecteur, ensuite. La matière du sacrement, c'est la tradition du livre de la Sainte Écriture. L'Église a deux trésors, le corps et le sang de notre Seigneur, et aussi la Sainte Écriture. On voit le grand respect que l'Église a pour la Sainte Écriture. En particulier, vous pouvez remarquer qu'aux messes chantées et aux messes solennelles, le prêtre encense les évangiles de trois coups doubles, donc pour indiquer la grandeur de la Sainte Écriture. De même, il baise le livre par respect pour la Sainte Écriture. La lecture que fait le nouvel ordinant est figure du ministère du prêtre qui fait entendre la parole de Dieu par la prédication. Donc là encore, cette action extérieure est une figure, une fonction intérieure que le prêtre va exercer, à savoir la prédication. Le rôle du lecteur, c'est de chanter les offices, les leçons de l'office divin. L'office divin, donc c'est les leçons en particulier des matines. À l'office de matine, il y a 3 ou 9 leçons. Ces leçons, normalement, donc, sont chantées par ceux qui ont reçu cet ordre des lecteurs. Il a encore le pouvoir de bénir le pain et tous les fruits nouveaux. Et également, il peut par là même enseigner le catéchisme. En général, au séminaire, on attend d'être ordonné lecteur pour pouvoir enseigner le catéchisme. La grâce de ce lectorat, c'est de bien lire et de se faire entendre. C'est surtout de communiquer les lumières surnaturelles et de donner le goût aux âmes de la Sainte Écriture. L'exorcista. Le prêtre est un autre Christ et il a par là même le pouvoir de chasser le démon. Ce pouvoir est reçu dès le troisième ordre mineur, mais il ne pourra être mis en exercice qu'après l'ordination sacerdotale, moyennant certaines conditions qui sont encore données par les supérieurs. Et là encore, le pouvoir de chasser les démons du corps est encore une figure du pouvoir qu'a le prêtre de chasser le démon des âmes, à savoir de les délivrer du péché. Ce pouvoir qui est reçu dès le séminaire rappelle au futur prêtre qu'il devra être un homme de combat. Et dans ce combat, il y a 2 écueils à éviter. Le premier, celui de rechercher une fausse paix en faisant des concessions avec le mal. Et le deuxième, d'avoir une espèce de zèle amer qui conduirait à avoir du ressentiment face à nos ennemis, alors que notre Seigneur nous a appris à haïr le péché, mais à aimer les pécheurs. L'acolyta. C'est le premier ordre qui donne le pouvoir d'agir dans le sanctuaire. Pour l'instant, on était à l'extérieur du sanctuaire. Son rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, va être de porter l'eau et le vin à l'autel et de le présenter au sous-diacre. Également, ce sont normalement les acolytes qui portent les chandeliers pendant la messe solennelle. Alors l'admonition qui est faite aux ordinants développe justement ce symbolisme de la lumière. Et cet ordre nous appelle à nous dépouiller des œuvres de ténèbres et à nous revêtir des armes de lumière. Et c'est aussi une invitation à nous offrir en sacrifice en union avec la divine victime sur l'autel, puisque l'acolyte porte à l'autel la matière du sacrifice. On avance, le sous-diaconat. Jusqu'au sous-diaconat, c'est une avancée vers l'autel. Et à partir du sous-diaconat, on commence l'ascension de l'autel. normalement, dans les grandes églises, il y a toujours trois marches. Ici, malheureusement, il n'y a que deux. Et le sous-diacre, normalement, se place à la messe solennelle sur la première marche, le diacre sur la seconde, et le prêtre ensuite sur la marche-pied, sur la dernière marche. Donc, le sous-diacre commence cette ascension vers l'autel, cette montée à l'autel. Le sous-diacre est essentiellement au service du diacre. Il a un rôle subordonné, parce qu'il est nécessaire d'obéir avant de recevoir un plus grand pouvoir sur les autres. Le sous-diacre présente le pain et le vin au diacre. Il passe toujours derrière le diacre. Il lui porte également le livre des évangiles. Et pendant le canon, c'est lui qui porte, comme je l'ai dit tout à l'heure, le voile huméral. Et devant le voile huméral, il tient dans la main la patène. Et si cette patène, il la tient devant les yeux, c'est pour témoigner qu'il n'est pas digne de regarder les saints mystères. Donc c'est le rôle du sous-diacre est un rôle qui a pour but d'enseigner la pratique de l'humilité. Il peut lire les prophéties, les figures de l'Ancien Testament et les épîtres qui préparent les fidèles à entendre les évangiles. Et il reçoit ce pouvoir de chanter pour les vivants et pour les morts. Parce que, il faut toujours se dire cela, les lectures, même qui sont faites avant tout pour la gloire de Dieu. Et non pas avant tout pour les fidèles. Les fidèles, bien sûr, participent à ces lectures, mais c'est d'abord une louange. Et cette louange qui glorifie le bon Dieu apaise en même temps les âmes souffrantes dans le purgatoire lorsque la messe est célébrée pour les âmes du purgatoire. C'est pourquoi, lorsqu'il reçoit ce pouvoir de chanter les épîtres, on lui dit qu'il reçoit ce pouvoir de chanter pour les vivants et pour les morts. Aux messes solennelles aussi, normalement, dans les grandes cérémonies, c'est le sous-diacre qui porte la croix. Vous voyez à l'icône, lorsqu'il y a les grandes cérémonies, la croix est toujours portée par un sous-diacre. Et justement, c'est au sous-diacre de porter la croix pour manifester ce que doit être sa vie. Il doit s'humilier avant de recevoir l'honneur de la prêtrise. Également, il a pour mission, comme nous l'avons dit tout à l'heure aussi, de porter les vases sacrés à l'autel et de les entretenir ainsi que les linges sacrés. Et c'est ce qui l'oblige, comme nous l'avons dit, à observer la chasteté perpétuelle. Pour l'aider dans ce devoir, l'Église va lui imposer le bréviaire, la récitation du bréviaire, qui a pour but d'entretenir en lui l'amour de Dieu. Il y a toujours un lien entre la pratique de la vertu de pureté et puis la contemplation. Si on doit observer cette vertu, c'est afin de pouvoir nous élever davantage vers Dieu. Et cette élévation vers Dieu nous permettra aussi justement de conserver cette chasteté. Ainsi, le sous-diaconat est en quelque sorte le commencement d'une vie toute céleste. Même certains pères de l'Église identifiés, et certains théologiens, à un deuxième baptême. Quand on est ordonné sous-diacre, c'est une autre vie qui commence. Alors, on remarque bien dans les textes de la liturgie que la croix, la pureté et l'oraison sont les trois marques du sous-diacre. Et qui l'aideront ensuite à recevoir l'ordre supérieur. Les vêtements du sous-diacre. Le premier vêtement, c'est la micte, que portent aussi d'ailleurs le diacre et le prêtre. C'est ce linge blanc que l'on met pour cacher le col romain, avant de mettre l'aube. La micte figure le suaire de notre Seigneur, et indique que l'on doit être mort et enseveli avec notre Seigneur. L'aube désigne la sanctification du corps et de l'âme. La ceinture est le symbole de la pureté. Le manipule, ce linge que l'on met sur le dos de la main, d'où manipule, représente les cordes dont fut lié notre Seigneur. Il signifie l'amour de la croix et la nécessité de réparer pour ceux qui ne veulent pas réparer. Et enfin, la tunique est le vêtement de la joie. se donne à notre Seigneur, il y a une joie intérieure qui est communiquée en échange de ce don. Le diaconat, c'est la dernière étape avant le sacerdoce. Saint Étienne, Saint Laurent et Saint Vincent sont présentés comme modèles de diacres. La mission essentielle du diacre, c'est la prédication. Le diacre est ordonné pour prêcher. Il entre en participation des fonctions du prêtre en lisant l'évangile et surtout en offrant avec le prêtre à l'offertoire le sang de notre Seigneur représenté par l'oblation du vin. À la prière de l'oblation du vin, le diacre soutient le calice que tient le prêtre et lit à voix médiocre la prière d'offrande avec le prêtre. Ce qui montre qu'il a vraiment une fonction qui le rapproche vraiment de l'autel. Il peut également baptiser et distribuer la communion. Il est une figure du prêtre comme serviteur de Dieu. Et il est en cette qualité une image de notre Seigneur qui a pris la forme d'un esclave en naissant avec un corps comme le nôtre, passible et mortel. Quelle est la vertu propre du diacre ? La vertu propre du diacre, c'est le total oubli de soi et de tout intérêt particulier. C'est là la vertu principale qu'il doit cultiver pour pouvoir accéder ensuite au sacerdoce. L'oubli de soi et de tout intérêt particulier. La fonction de diacre, il lui faut l'intelligence de la Sainte Écriture et de la loi de Dieu, un grand amour de Dieu et un zèle ardent pour faire connaître notre Seigneur, et aussi une grande force pour soutenir inviolablement les intérêts de Dieu. On voit que plus on approche de l'autel, plus dans les prières du rituel, on insiste beaucoup sur le combat spirituel. Et cela est vrai en particulier de l'ordre du diaconat. Plus le clerc s'approche de l'autel, plus en même temps il doit se préparer à ce combat spirituel. Et c'est pourquoi la formule d'ordination du diaconat, réclame le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est communiqué ad rebours, c'est-à-dire afin d'être fort et de résister aux démons et à ses tentations. Fait de lui un autre Christ. Et c'est cette marque indélébile qui est imprimée sur son âme, qui va lui donner le pouvoir de dire la messe, qui va lui donner le pouvoir de remettre les péchés, et qui va donner aussi le pouvoir de bénir les personnes et les objets. Le prêtre a une mission par rapport à Dieu, une autre par rapport à l'Église, et enfin une autre par rapport aux hommes. Par rapport à Dieu, le prêtre est l'ambassadeur de Dieu. Qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. Saint Luc, chapitre 10. Verset 16. Le prêtre est donc vraiment l'ambassadeur de Dieu. Qui vous méprise, me méprise. Le prêtre doit publier la loi de Dieu, défendre ses intérêts, soutenir sa cause, faire respecter son nom. Tout le but du sacerdoce est cela. Faire en sorte que l'Église puisse s'étendre. Et pour cela, eh bien, le prêtre prêche. Le prêtre ensuite baptise les enfants, ensuite il nourrit les âmes par le Saint-Sacrifice de la Messe, et il cherche ensuite à appliquer le sang de notre Seigneur par les autres sacrements. Donc voilà la mission du prêtre par rapport à Dieu. Ensuite, par rapport à l'Église, le prêtre est en quelque sorte l'officier de la milice qu'est l'Église, il est encore le gardien de l'épouse du Christ qu'est l'Église. Et enfin, par rapport aux hommes, il est le coopérateur de Dieu. C'est sûr que cela nous fait toujours réfléchir. Le bon Dieu compte sur ses ministres pour arracher les âmes à l'enfer et les conduire au ciel. Donc plus les prêtres sont saints, plus ils pourront être efficaces. Et c'est pour cela que c'est très important de prier pour les vocations. Enfin, dernière question que l'on peut se poser avant de conclure. Est-ce qu'il doit y avoir un pouvoir épiscopal qui est supérieur à l'ordre sacerdotal? Le prêtre, nous l'avons dit, a une double fonction, consacrer, c'est-à-dire dire la messe, et puis ensuite préparer le peuple à la réception de ce sacrement. Le pouvoir du prêtre concernant la première fonction, donc concernant le fait de dire la messe, ne dépend d'aucun autre que de Dieu. Dieu directement donne ce pouvoir à celui qui a reçu l'ordination. Par contre, le pouvoir de préparer le peuple à la réception du sacrement, cette deuxième fonction, dépend de l'autorité ecclésiastique. Par conséquent, le pouvoir épiscopal n'est requis que pour la deuxième fonction du prêtre, à savoir la fonction qu'il exerce sur le corps mystique. L'évêque n'a pas une fonction plus importante que le prêtre sur le corps mystique de notre Seigneur. Sur le corps physique, pardon, de notre Seigneur. Il peut dire la messe, mais il ne peut rien faire de plus que le prêtre dans ce domaine. Et par contre, à l'égard des fidèles, c'est vrai que, alors que le prêtre dans une paroisse s'occupe uniquement de ses paroissiens, l'évêque, lui, pourra s'occuper et des prêtres qui sont sous lui, qui dépendent de lui, et puis également de tout un diocèse. Et c'est là la fameuse distinction qu'il y a entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Donc, pas la prochaine fois, mais la fois suivante, je vous expliquerai la différence qu'il y a entre les deux, entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction, avec les conséquences pratiques pour la crise de l'Église que nous vivons aujourd'hui. Le pouvoir de juridiction est donné par la tête, tandis que le pouvoir d'ordre est reçu directement de Dieu. Donc, il existe bien un pouvoir épiscopal qui a pour but de renforcer la hiérarchie de l'Église, comme à l'armée, les officiers ont à leur tête un général. Mais ce pouvoir s'exerce sur les fidèles et non par rapport à Dieu. L'épiscopat, donc, serait-il un ordre? Eh bien, la réponse est donnée en fonction de la distinction qu'on vient de faire plus haut. Non, s'il s'agit du pouvoir de l'évêque sur la Sainte Eucharistie, puisqu'il n'a pas un pouvoir supérieur au prêtre dans ce domaine. Oui, s'il s'agit du pouvoir vis-à-vis des actions hiérarchiques sur le corps mystique. Puisque là, il a en effet un rôle plus important que les simples prêtres. Ensuite, au-dessus des évêques, il y a bien sûr le pape. L'Église ne formant qu'un seul corps, il est nécessaire qu'il y ait un pouvoir suprême pour toute l'Église, au-dessus du pouvoir épiscopal qui régit les Églises particulières, et ce pouvoir est celui du pape. Conclusion, cette étude, je pense, bien sûr que c'est succinct, c'est loin d'être exhaustif, mais ça vous montre un petit peu, quand même, je pense, à la fois le rôle de chaque ordre avant d'arriver au sacerdoce, également le lien qui existe entre ces différents ordres, et puis aussi, je pense, nous donne toujours ce sens aussi hiérarchique, ce sens de la hiérarchie. Donc, si j'ai réussi à vous faire comprendre cela, eh bien, je pense que je n'aurais pas perdu mon temps. Voilà, donc la fois suivante, donc nous aurons cette conférence de M. l'abbé Lagneau. Et puis ensuite, je vous parlerai du prêtre proprement dit, en faisant une instruction en deux parties. Première partie, la distinction du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction. Et puis ensuite, à partir de mon expérience, vous raconter un petit peu ce que c'est que la vie d'un prêtre. Vous avez déjà une petite idée, mais autant que je pourrais en parler, donc je pourrais faire part de ma propre expérience. Voilà. Par une prière, à moins que vous n'ayez des questions à poser. Oui, trois questions. Allez-y. J'ai dit que depuis le 6e siècle, ils avaient un habit sombre et long, donc c'était ce qui leur permet de... Oui, mais ce n'était pas la soutane proprement dit, ce n'était pas vraiment une soutane, si vous voulez.
Peut-être ça dépendait aussi des lieux. Ça dépend aussi peut-être aussi des lieux. Les offices en général sont à 9h, mais on pourra vérifier. Ça doit être 9h. Oui, il y a 2h30 de route pour la famille. Oui? Certainement, certainement. Entre quoi et quoi? Matérialité informalitaire? Enfin là, c'est encore une autre distinction qui n'a pas trait directement au sacerdoce. Mais à mon avis, bon, la distinction que nous faisons dans la fraternité, c'est lorsque le pape agit en tant que pape et lorsqu'il agit en tant qu'homme. À mon avis, cette distinction suffit à, d'un point de vue pratique, à agir finalement en conformité avec l'esprit de l'Église. Maintenant, matérialité informalitaire, c'est à peu près la même chose. La différence, du point de vue pratique, c'est la même chose. Et la différence, c'est qu'on dit que formellement, il n'est pas pape. Hein, si, a-t-on le droit de dire que formellement il n'est pas pape? Qui a ce pouvoir? Le pouvoir de trancher la question. Cette question, normalement, devrait être tranchée, elle sera sans doute un jour, mais par un prochain pape, hein, ou par un concile. Parce qu'il y a un adage qui dit « Prima sedes animine judicatur », le siège de Pierre ne peut être jugé par personne. Donc, pour pouvoir trancher cette question-là, il faut être... au moins légal, comme légal du pape, ça ne peut être qu'un autre pape. C'est dans ce sens d'ailleurs que l'abbé de Nantes demandait à Paul VI de juger Paul VI. C'est une façon de résoudre le problème. Mais pour l'instant, cette question n'est pas encore tranchée. Ça reste un peu mystérieux. Il y a une partie de mystère dans cet ordre de Melchisédek. C'est vrai que l'ordre de Melchisédek. Oui, le pain et le vin étaient une figure du sacerdoce nouveau. Il était soi-disant sans père, sans mère, sans généalogie. C'est un homme, un personnage un petit peu mystérieux. Mais on sait peu de choses sur lui et c'est assez difficile. Il a disparu comme il est arrivé. Ouais. Oui. Normalement, là encore, ça a toujours été une coutume dans l'Église que c'était le clergé romain qui devait élire le pape. Alors, quand bien même il y aurait eu un vice de forme dans l'élection du pape, dans la mesure où il a ensuite été reconnu par l'ensemble des évêques comme étant pape, ça, en fait, ça valide la nomination qu'il a reçue. Oui, mais je vous dis, ça c'est vrai, mais en ce moment-là, je vous dis qu'elle serait validée non pas par les francs-maçons qui l'auraient élu, mais ensuite par le clergé romain qui aurait ratifié l'élection. Dans la mesure où il y a une ratification de l'élection, ben la ratification de l'élection, dans la mesure où elle est reconnue par tous, c'est le signe qu'il l'est. Parce qu'il y a encore un autre adage dans l'Église qui dit que le siège est en faveur de celui qui le possède. Donc, visiblement, c'est lui qui est sur le siège, et bien donc c'est lui qui l'est. C'est un adage juridique. Jusqu'à preuve du contraire. Comment? Mais l'Église repose sur le droit, quand même. Il y a un droit... Parce que s'il n'y a pas de droit, s'il n'y a plus de droit canon, alors il n'y a plus rien. Là. Il y a quand même des lois dans l'Église. Là. C'est-à-dire que s'il y avait eu un vice, comme dit Madame Lucio, en ce moment-là, ils peuvent en effet manifester qu'il y a eu un vice. Il faut le prouver, bien sûr, pour le prouver. Comment ? Non, c'est l'ensemble. Non, c'est considéré comme étant l'ensemble, vraiment. Oui. Cette question est délicate, hein, c'est vrai. Cette question est délicate, mais à mon avis, on a quand même des éléments de réponse. Bien, oui ? Ah oui, il y en a eu pendant très longtemps, oui. Il y en a par accident, mais normalement, c'est vrai que c'est pas... C'est-à-dire que, par exemple, le fondateur de... Oh, j'ai un trou de mémoire. Un fondateur d'ordre... Ah, j'ai un trou de mémoire, je me souviens jamais des noms. Ici, le père Lieberman, voilà. Le père Lieberman a été ordonné sous-diacre et quelques instants après son sous-diaconat, il a fait une crise d'épilepsie. Et normalement, un épileptique ne peut pas être ordonné prêtre, hein, parce que si on a une crise d'épilepsie à l'hôtel, vous imaginez un peu le drame que ça peut se produire. Donc, à cause de cet empêchement, qui était lié donc à un problème d'ordre physique, il a été bloqué au sous-diaconat pendant 14 ans. Et ensuite, puisqu'il n'y a pas eu de récidive, eh bien, il a fini par être ordonné diacre et prêtre. Donc là, c'était un obstacle d'ordre physique, mais ça signifie, c'est un simple exemple que je vous donne, qu'il peut exister des obstacles, soit d'ordre physique, psychologique, spirituel, moral, qui peuvent exister et qui font que, alors que l'intention première de celui qui est rentré était d'être ordonné prêtre, eh bien, cet obstacle fait que, qu'il y a un empêchement. Et là, justement, comme je disais tout à l'heure, cet empêchement, c'est les supérieurs qui, eux, normalement, sont à même de trancher ces questions. Mais ça s'est déjà produit. Enfin, moi, cet exemple-là, à mon avis, est assez, assez éloquent, puisque... Le père Lieberman a fondé, en fait, était cofondateur des Pères du Saint-Esprit, et Mgr Lefebvre faisait partie des Pères du Saint-Esprit. Donc c'est un petit peu dans la même ligne que la fatalité. Et en tant que sous-diacre, simple sous-diacre, il a d'ailleurs été assuré des directions spirituelles qui étaient admirables et formidables. Il a même dirigé des directeurs de séminaires, je crois, séminaires de Rennes ou de Vannes, en tant que simple sous-diacre. On aurait tout, je pense, aussi pour le canoniser. Je pense qu'il sera canonisé un jour. Ça, c'est les desseins de Dieu. Par contre, il y en a eu d'autres où ça s'est produit après le sacerdoce. Alors, quand c'est après le sacerdoce, à ce moment-là, s'ils sont dans les prêtres, ils sont dans les prêtres. Mais par exemple, il y a le père dominicain qui était pendant très longtemps à la Sainte-Baume et qui ensuite, après, d'ailleurs, a été élu supérieur des dominicains. Eh bien, il a eu de très graves ennuis de santé pendant des années et des années, il ne pouvait plus, pour ainsi dire, rien faire de son ministère. Mais ensuite, il a guéri aussi, il a été ensuite, finalement, élu supérieur des dominicains, le père Vessière. Alors, il disait des rosaires par jour, à la Sainte-Baume. Donc, voilà, un petit peu la réponse. Bien, eh bien, on va... Oui. Oui, il est assimilé, ouais, c'est ça. C'est une... Mais normalement, d'ailleurs, c'est l'aube n'est portée que lorsque l'on est ordonné sous diacre. Donc, en soi, on devrait être plus choqué par le port de l'aube que par le port de la soutane, puisque la soutane, on peut porter la soutane sans être clair. comme j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Puisque aujourd'hui, dans la fraternité, on rentre dans la cléricature en deuxième année, mais on porte la soutane en première année. Donc un simple laïc peut porter la soutane. Tandis que normalement, pour porter l'aube, il faut être sous-diacre. C'est le vêtement du sous-diacre, l'aube. Donc l'aube, normalement, devrait être portée plutôt uniquement par des clercs. Or, je suis sûr que dans l'esprit de plusieurs fidèles, ils se poseraient plus de questions en voyant un laïc en soutane qu'en voyant un homme. Alors que normalement, c'est l'inverse. Enfin, c'est un peu une réponse à votre question. Alors, le frère, c'est un religieux. Donc là, ça n'a pas trait à la... Voilà. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est une autre distinction. Là, la distinction qu'on a faite, c'est la distinction entre le clerc et le laïc. Mais les frères restent laïcs. D'où l'expression « frère lait ». Lait, en fait, ça veut dire laïc. Les frères lait dans les couvents, c'est laï. Mais par contre, il y avait des frères qui, qui avaient commencé, c'est le cas d'ailleurs d'un frère de Morgon, qui a fait ses études, je l'ai vu la semaine dernière, là. Il a commencé ses études pour être normalement ordonné prêtre. Puis finalement aussi, les supérieurs ont jugé digne de le... il ne serait pas ordonné. Et donc finalement, il avait reçu les 4 premiers ordres mineurs, et avant le sous-diaconat, il a été arrêté aussi. Et donc il restera simple frère. Mais alors, il m'expliquait, c'est lui-même qui m'expliquait, qu'il sera frère convert, parce qu'on peut être frère lait et frère convert. Donc il sera frère convert, c'est-à-dire qu'il gardera la tonsure, ce qui lui permettra, dans le cœur, de dire certains offices, que n'ont pas à réciter les frères lait, qui eux se contentent de réciter des patères et des ave. Donc il sera clair, sans être pour autant sous-diacre ou diacre ou prêtre. Tandis que les frères lait restent laïcs. Alors, les nappes de l'autel symbolisent les vêtements de notre Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, à l'office de la semaine sainte, du jeudi saint et du vendredi saint, lorsque on enlève les nappes, on dit on lit le psaume 21 et l'antienne, c'est l'antienne qui dit qu'ils ont tiré au sort mes vêtements. Parce que c'est le lien entre la nappe et les vêtements. Mais s'il y a 3 nappes, ensuite, bon, c'est peut-être en l'honneur de la Trinité, parce qu'il y a toujours, il peut y avoir des côtés symboliques, hein, mais le côté pratique ensuite, c'est tout simplement parce que, au cas où le précieux sang se renverserait, si tout n'est pas absorbé par la première nappe, eh bien, elles seront par les suivantes. Mais aujourd'hui, dans l'Église aussi officielle, on n'utilise plus qu'une nappe en général. Donc il y a plus ces précautions qu'on prenait avant. Voilà. Oui. Oui. Tout à fait. Hein. Oui. Il y a des mesures en fonction de l'ordre. Je crois que c'est allé de 8,5 pour les évêques, 6,5 pour les prêtres. 2,5 pour celui qui vient la recevoir, et après ça elle augmente plus ou moins. Non, c'est vrai qu'on ne la porte plus, non. Donc c'est une toute. Exactement, c'est une coutume qui est tombée. C'est-à-dire qu'on coupait les mèches d'abord en croix, et puis après on faisait le rond. Et pour pouvoir faire le rond, il faut qu'il puisse y avoir des cheveux. Non, on coupe, je vous dis, on coupe 5 mèches. Oui. Le rituel que nous suivons, nous, dans la fraternité, c'est le rituel de Jean 23, pour les différents ordres. C'est le missel de 1962, et puis le rituel aussi. Non, c'est dans 67, ça. Si, c'est 67, ça. C'est 67. Je Je sais bien, c'est ce qui. C'est, moi, je vous voyais venir, mais je sais bien. À Pont-Calais, c'est le cas aussi. C'était le cas. Ouais. C'est 67. Attention, les prières après la messe, ça c'est autre chose, ça c'était les prières de Léon XIII. Ça. Donc c'est pas inclus forcément dans la messe, ça c'est en plus. Ça. C'est le pape Léon XIII qui les avait demandé, elles sont pas incluses dans la messe. Elles sont pas incluses. Demandez-leur. Alors, il fallait demander à Mgr Lefebvre, malheureusement. C'est qu'il a estimé que jusque-là, c'était possible de suivre. Les changements étaient encore admissibles. Oui, c'est sûr. Hein. Voilà.